Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Décryptage, Laurent Lemire.
Bonsoir à tous. Que sait-on du monde de Jésus? Que se passait-il lorsqu'il est né? A-t-on pris la mesure de l'événement? Pour tout savoir sur ce moment, je reçois dans Décryptage l'historien et journaliste Bernard Lecomte et le père Ludovic Nobel. Père Ludovic Nobel, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre de la Société missionnaire de Bethléem. Vous enseignez le Nouveau Testament à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg en Suisse, d'où nous vous appelons d'ailleurs, et vous accompagnez régulièrement des voyages bibliques en Terre Sainte, et vous publiez au CERF un excellent petit ouvrage qui s'intitule « Jésus et son monde », 200 pages, 16 euros, et on voit que vous connaissez bien la Terre Sainte, puisqu'il y a un chapitre magnifique où vous nous faites visiter Jérusalem sur les traces de Jésus. On va y revenir, bien évidemment. Bernard Lecomte, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes écrivain, historien et journaliste, spécialiste du christianisme, de l'Église catholique et du Vatican, auteur d'une biographie de référence sur Jean-Paul II et d'autres papes. Et alors là, vous publiez également au CERF un ouvrage, enfin, ça se présente comme un magazine. D'ailleurs, ça s'intitule « Jérusalem Magazine », 100 pages, 10 euros. Et en zéro... magazine, décembre, et donc je dis, ça se présente vraiment comme un magazine, je me dis, vous êtes un peu sorti des cadres, parce que vous avez imaginé, en gros, s'il y avait eu Paris Match au moment, à la veille de la nativité, voilà ce que ça aurait pu donner.
Oui, Bernard alors Lecomte. Pas à la veille, 15 jours après.
15 jours après, oui.
Le jeu commence quand on imagine qu'à Jérusalem, en effet, il y a un grand magazine. Vous avez cité Paris Match, mais oui, on aurait pu en citer bien d'autres.
Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de photos.
J'ai travaillé pendant 10 ans à l'Express. J'ai passé un certain temps au Figaro Magazine. Donc, j'ai une certaine expérience de ces ouvrages. Et le patron des éditions du CERF m'avait dit, mais justement, puisque vous connaissez bien la presse magazine, est-ce que vous nous feriez pour Noël, un news magazine qui raconte justement ce qui s'est passé au moment de la nativité. Vous voyez, cher Laurent, vous voyez le but de l'opération.
Ah ben je me suis bien amusé aussi.
Ah oui, ça on pourra y revenir parce que franchement, j'aimerais vous entraîner dans ce jeu car c'est un jeu sympathique. Mais en même temps, il y a une démarche de la part du patron du CERF, Jean-François Colosimo, que j'ai essayé de bien suivre pendant les 2 mois où j'ai passé matin, midi et soir mon temps en Terre Sainte, en quelque sorte. Cette démarche, elle est pédagogique, elle est très didactique. Il s'agit quand même fondamentalement, par ce jeu de presse, de transmettre exactement ce que Ludovic Nobel raconte dans son Jésus et le monde et son monde.
Et son monde.
Formidable petit livre
auquel vous faites référence d'ailleurs.
C'était quoi la nativité? C'était quoi la Terre Sainte? C'était quoi le peuple juif? C'est quoi tous ces trucs-là? Aujourd'hui, on sent bien que c'est un peu en dehors de notre culture, ou en tout cas en marge de notre culture, alors que, fondamentalement, c'est au cœur de notre civilisation.
On retrouve dans ce Jérusalem Magazine les rubriques habituelles d'un news magazine, comme Paris Match, l'Express, l'Obs, avec les différentes rubriques. Alors là, il y a même des rubriques People, et évidemment des interviews, et par exemple, exclusivité mondiale. Donc on a toute la titraille, je dis bien ça pour nos auditeurs qui ne voient pas, bien évidemment, ce Jérusalem Magazine, ça a vraiment la forme d'un magazine. Alors, et on retrouve la titraille de ces magazines. Exclusivité mondiale, le témoignage stupéfiant du prêtre Zacharie, Dieu nous fait des surprises, et en chapeau, si j'ose dire, Zacharie, prêtre et sacrificateur auprès du temple de Jérusalem, raconte comment un ange nommé Gabriel lui est apparu pendant son service. Alors, bon, propos recueillis évidemment par quelqu'un que vous avez inventé. Mais donc là, on a une interview. Comment vous faites? Parce que vous n'avez évidemment pas interrogé Zacharie.
Il suffit de lire l'évangile. l'Évangile.
Oui, mais... Hein,
dans l'Évangile, Zacharie est un personnage qui vient assez tôt. C'est le mari d'Élisabeth, vous savez, la cousine de Marie. On apprend ça quand on va au catéchisme, quand on lit l'Évangile. Et ce Zacharie, j'avais envie, moi, de le mettre en scène. Parce que, après tout, ce type-là a été tout à fait sidéré par la grossesse de sa femme. Et donc, il peut raconter l'histoire de la nativité d'une façon particulière. Et donc, comme il est en plus homme de Dieu, c'est un religieux juif, on l'a titré son témoignage « Dieu nous fait de sacrées surprises ».
Vous avez aussi, alors juste après, il y a un autre article qui s'intitule « Rassemblement inédit devant le temple pour un assouplissement de la peine de mort » et on voit des un article sur les manifestants qui demandent la suppression de la crucifixion.
Oui, alors il faut bien comprendre que tout ça est parfaitement authentique.
Ben oui, mais c'est justement.
Je ne suis pas un historien, je n'ai pas le savoir de Ludovic Nobel, je parle sous son contrôle. Mais pour avoir lu énormément de livres sur le sujet, je vous garantis qu'il y avait effectivement dans cette Jérusalem de l'époque des groupes de gens qui contestaient la peine de mort. Et parmi les supplices, les morts qu'ils contestaient, il y avait le supplice le pire qui soit, c'est-à-dire la crucifixion. Alors évidemment, le clin d'œil, c'est de parler de la crucifixion alors qu'on est dans la naissance de Jésus. Ce sont des clins d'œil comme ça qui font que, avec beaucoup de respect, bien entendu, pour les sujets que l'on aborde, on fera de clin d'œil en clin d'œil. C'est un petit peu, il s'agit aussi de sourire,
de s'amuser,
et de rire un peu sur un sujet qui est d'une richesse folle.
Ludovic Nobel, vous avez, je crois, feuilleté ce Jérusalem Magazine. Comment ressentez-vous, vous, le théologien, cette démarche, c'est-à-dire d'utiliser, comme le rappelait Bernard Lecomte, des matériaux historiques tout à fait sérieux, mais de les présenter d'une manière un peu plus journalistique?
Voilà, eh bien, oui, c'est une manière intéressante de présenter les événements originaux, bien sûr, assez osés, et puis effectivement un exercice pas tout à fait simple, puisqu'il y a certains événements qui se passent après, avant, mais de remettre cela. Et je pense que le côté rafraîchissant, agréable de cette présentation, eh bien, c'est justement de reprendre beaucoup de textes du Nouveau Testament qui sont connus des gens, mais de les mettre sous forme d'interviews, sous forme de témoignages, et donc de les rendre très modernes, très actuels, très proches des gens, et de leur donner une accessibilité comme cela. Puis en même temps, il y a alors tous ces, d'un regard d'historien ou de bibliste, hein, il y a tous ces encadrés qui font des petits éclairages, pas très longs, mais toujours bien à propos, et donc très enrichissants.
Vous, Ludovic Nobel, dans le Jésus et son monde, votre démarche, elle est tout à fait différente. Je disais, c'est un livre tout à fait éclairant parce qu'il a beaucoup de documentation, il est très accessible. Et vous avez voulu, au fond, nous raconter 4 siècles de Palestine pour relire un peu autrement peut-être le Nouveau Testament. Vous dites c'est un guide pour le lecteur contemporain qui souhaiterait entreprendre un voyage à l'époque de Jésus et de la rédaction du Nouveau Testament.
Oui, c'est ça. L'idée de ce livre, eh bien, c'est un petit guide. Et dans le fond, comme j'accompagne les voyages en Terre Sainte, mais c'est un petit guide sur les pas de Jésus pour quelqu'un d'aujourd'hui et sur les pas de Jésus et sur les pas, si on veut, du Nouveau Testament de l'Évangile. Parce que beaucoup de choses maintenant, comme disait Bernard Lecomte, eh bien, notre culture a évolué. Beaucoup de choses sont devenues inconnues pour notre mentalité, le monde d'aujourd'hui. Et il faut éclairer cela. Et par ce livre, eh bien, j'essaye d'éclairer la lecture du Nouveau Testament pour la rendre plus accessible, pour la rendre agréable au plus grand nombre.
C'est-à-dire que vous replacez aussi cet événement qui est la nativité dans son contexte historique, parce que vous, il y a effectivement une présentation de ce qu'était la Palestine et des différentes régions, des trois districts, Galilée, Judée et Samarie, avec cette domination romaine. Donc, vous replacez tout ça dans le contexte de l'époque pour qu'on comprenne bien ce qu'était la situation à la fois politique, sociale et religieuse.
Voilà, j'essaie de présenter un éclairage historique dans une première partie pour recadrer cela. Comment comprendre Jésus si on ne comprend pas vraiment l'histoire, le monde, ce monde romain, la dynastie des Hérodes, comment un peu éclairer tout ça. Après, il y a un éclairage religieux. Jésus était juif, mais en même temps, il y a de la religion romaine, il y a d'autres religions. Qu'est-ce que c'était ce judaïsme de l'époque? Comment? Alors, un éclairage religieux, puis enfin, un éclairage plus géographique, un parcours sur les lieux. Pour comprendre Jésus, il faut comprendre son monde, il faut comprendre son époque, son temps. C'est un peu l'idée qui est là derrière.
Bernard Lecomte, comme disait le Père Nobel, comprendre Jésus, c'est comprendre effectivement son temps, son époque. C'est ce que vous avez, c'est la démarche que vous avez entreprise avec cette volonté de rubriquer les choses et de les rendre accessibles, parce que c'est effectivement un magazine. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure je faisais référence à Paris Match, parce qu'il est très illustré.
Oui, il est très illustré pour deux raisons. D'abord parce que il faut un magazine, et pas seulement celui-là, un magazine d'une façon générale, regardez Match ou le Figmag ou d'autres, il faut que ce soit bien illustré, il faut que ce soit un plaisir, la lecture d'un magazine. Et puis deuxièmement, il faut rappeler ce que Ludovic Nobel connaît bien, c'est que la Palestine, cette région de Canaan, la Galilée, la Samarie, la Judée, mais c'est magnifique, ce sont des endroits magnifiques. Toute personne ayant fait un pèlerinage en Terre Sainte, ou ayant voyagé et ayant visité Israël, revient les yeux éblouis par ce qu'il a vu. Moi, j'ai encore, je tremble encore quand je pense au village de Galilée, quand j'ai descendu jusqu'à Jéricho et jusqu'au Jourdain. Ce sont des endroits magnifiques, il faut le dire à tous nos auditeurs, ceux qui ne sont jamais allés là-bas, il faut absolument aller là-bas.
Mais les deux ouvrages dont nous parlons ce soir donnent évidemment formidablement envie de s'y rendre. Ludovic Nobel, vous dites à un moment donné que l'aspect biographique n'est pas primordial pour les évangiles, c'est-à-dire que les données historiques qui sont dans le Nouveau Testament sont relativement faibles pour la connaissance du Jésus historique.
Oui, les évangiles, dans le fond, ce ne sont pas des vies de Jésus, ce n'est pas des biographies.
Voilà.
C'est pas ça l'aspect premier. Les évangélistes ont composé ces évangiles pour transmettre la foi, pour donner envie de croire et pour transmettre leur propre foi. Et c'est ce qui est premier. Et donc, c'est dans ce sens-là que si on a voulu écrire une vie de Jésus avec tous les détails, on serait un peu déçu, on ne trouverait pas tout dans nos évangiles. Par contre, ils ont un message complet sur la foi. Comment parvenir à la foi? Qui est vraiment ce Jésus, son identité profonde? Qu'est-ce que c'est le royaume? Comment c'est le salut? Donc ils transmettent une foi, un message très positif, mais qui n'est pas avant tout les détails. Par exemple, si on regarde la mort de Jésus, eh bien, on a assez peu de détails sur sa crucifixion. Les quelques détails que l'on a sont des détails qui se réfèrent plutôt à l'accomplissement de l'Écriture. En quoi est-ce que Jésus, dans sa mort, est venu accomplir l'Écriture? Et donc, il relève comme le partage des vêtements qui ont été joués au sort et au dé, parce que ça correspond à des prophéties d'Écriture. Alors ça, il le relève. Mais il y a beaucoup de détails que, dans le fond, les cinéastes ou les écrivains ou les peintres ont donné beaucoup plus de détails qu'on en trouve dans le Nouveau Testament à proprement parler.
Bernard Lecomte, est-ce que dans cette actualité antique, est-ce qu'on a pris la mesure de l'événement? Alors évidemment, le magazine Jérusalem Magazine laisse entendre que oui, puisque c'est un événement. Mais est-ce qu'à l'époque, on l'a vraiment ressenti comme quelque chose d'important, d'essentiel?
Alors, même dans Jérusalem Magazine, il y a beaucoup de prudence. oui. beaucoup d'attention justement aux conditions de l'époque. Vous savez, à l'époque, la naissance de Jésus, ça n'a rien bouleversé. C'était un tout petit événement dans un petit village qui a été repéré par quelques bergers. Certains avaient lu la Bible parce que les Juifs, évidemment, étaient très attentifs à leur histoire, à leur passé. Et donc, voilà, dans la Bible, il y avait qu'on attendait un Messie, un sauveur d'Israël. Et les bergers se sont dit, est-ce que ça serait ça par hasard? Mais tout ça, pardon, c'est infinitésimal à l'époque. Bien sûr que nous, dans ce faux magazine, on en rajouterait un peu, parce qu'on va interroger les bergers, les rois mages, on fait un grand portrait de Hérode, le roi, oui. On enquête sur le massacre des innocents. Mais en réalité, sur le plan historique, on sait très peu de choses, et c'était très peu de choses. Et là, Ludovic Nobel a complètement raison. Sur le plan historique, on a très peu d'éléments. Ce qui me frappe personnellement, c'est que ces éléments s'accumulent au fil des années. Parce que tout simplement, depuis un siècle à peu près, la science, les archéologues, les sémiologues, les historiens se sont intéressés plus, évidemment, à cette histoire. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Et plus on avance, et plus les scientifiques nous confirment qu'il y a eu, oui, c'est vrai, un gars qui s'appelait Jésus, il y avait effectivement eu des problèmes avec les autorités, il a effectivement été condamné à mort. Depuis Flavius Joseph et d'autres, on travaille là-dessus, et notamment les archéologues travaillent là-dessus. Et ce qui est très frappant, Laurent, c'est que plus on en sait, plus on confirme l'historicité de Jésus et de cette affaire, moins les gens croient. Les chrétiens ont été pleins d'une foi formidable pendant 1900 ans, alors que rien ne confirmait les écrits de l'Évangile. Et puis maintenant que la science commence à confirmer de plus en plus, ben on croit moins. Ce qui est quand même un sacré paradoxe, avouez-le.
Oui. Alors vous dites, et Bernard Lecomte, vous expliquez bien que, et on retrouve cela dans le livre de Ludovic Nobel, que l'an zéro, ça n'existe pas.
Non, en effet, mais ça, vous savez, c'est les mathématiciens qui nous disent ça. Oui. C'est pas les historiens. C'est-à-dire qu'en mathématiques, l'an zéro, c'est une absurdité.
Oui.
Et moi, je joue avec ça dans le numéro. Je dis qu'à l'époque, effectivement, on ne connaît pas les calendriers. À l'époque, il y a le jour et la nuit, d'une part, et les saisons, d'autre part. Et donc, les chiffres, très peu de gens, il y a 2000 ans, savaient ce que c'était qu'une date, ce que c'était qu'un calendrier. Et donc, c'est des reconstitutions. Donc, l'an zéro, c'est une formule qui ne tient pas la route. Les mathématiciens vont très vite découvrir qu'en fait, l'an zéro, bah, c'est l'an 1. Il n'y a pas d'an zéro. Voilà, c'est un jeu et en même temps, c'est une donnée scientifique amusante.
Ludovic Nobel, vous dites également, notons encore que l'an zéro n'existait pas, et vous nous expliquez d'ailleurs très précisément que Jésus est né entre 5 ou 7 ans avant notre ère, et il est mort le 7 avril de l'an 30. C'est-à-dire qu'il y a eu des calculs qui ont été faits à partir du calendrier romain.
Oui, alors par rapport à sa naissance, oui. Il y a la question du calendrier romain, et on comptait bien sûr les années, pas à partir de Jésus à cette époque, il faut attendre le 6e siècle pour qu'on compte à partir de qu'on change le calendrier, on comptait à partir de la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ qui correspondra à l'an 01, et là Denis le Petit, un moine qui a fait ses calculs, s'est trompé manifestement de 5 ou 6 ans, parce que finalement on sait précisément que Hérode, le roi Hérode, est mort en l'an 750 du calendrier de Rome. Et donc, si Jésus-Christ était né en 753, Hérode serait déjà mort depuis longtemps. Or, Hérode est encore en vie. Et donc, Jésus a dû naître un peu avant la mort d'Hérode, donc vers 5-6, avant ces fameuses an zéro. Et puis, concernant j'avance cette date de l'an 30, du 7 avril oui. 30, parce que c'est le calcul astronomique qui fait qu'on arrive à savoir. La fête de la Pâque à laquelle Jésus meurt, eh bien, se situe autour du 14-15 Nisan, ça dépend si on suit la chronologie de Jean ou de Marc, c'est-à-dire le mois d'avril, et on peut savoir quand est-ce que ce 15 Nisan tombe un vendredi. Et donc, par le calcul astronomique, et on a, disons, quelques dates qui nous sont proposées, et parmi celles-ci, la plus probable est effectivement celle du 7 avril 30, qui suivrait, qui privilégierait la chronologie de Jean. Mais bien sûr, c'est encore une hypothèse quand même.
Cette date qui annonce un nouveau commencement, et c'est ce que nous allons écouter, une pause musicale, l'extrait du Jésus de Nazareth à Jérusalem, de la comédie musicale de Pascal Obispo.
Radio Notre-Dame.
C'est comme si quelque chose avait changé, comme si quelqu'un avait mis toute la lumière du monde dans le ciel de notre vie. C'est comme si nous étions tout près de lui, comme si nous avions depuis trouvé cette force en nous, le pardon infini. Ce que nous avons vécu, ce n'était que le début. Ce que nous avons reçu, ce n'était que le début. Rien ne sera jamais comme avant. C'est ici, c'est maintenant, au bout de nos cœurs impatients, un nouveau commencement. Rien ne sera jamais comme avant. Ce qu'on veut, ce qu'on attend, c'est à nous de porter le chant d'un nouveau commencement.
Une fois dans la vie, quelqu'un prie pour nous. Cette seule fois suffit pour changer tout. Une fois dans la vie, quelqu'un vit pour nous, et l'espoir grandit là devant nous. Le partage est dans nos mains, nous ouvrons tous les chemins. De haine, il n'y en aura plus, de pleurs, de chaînes, il n'y en aura plus. Rien ne sera jamais comme avant. C'est ici, c'est maintenant, au bout de nos cœurs impatients. Sera jamais comme avant. Ce qu'on veut, ce qu'on attend, c'est à nous de porter le chant. Un nouveau commencement, un nouveau commencement, un nouveau commencement.
C'était la troupe de la fresque musicale dans cet extrait de Jésus, la comédie musicale de Pascal Obispo, donc un nouveau commencement. Et nous retrouvons Ludovic Nobel et Bernard Lecomte pour évoquer le moment de la nativité et le monde de Jésus. Ludovic Nobel, dans Jésus et son monde, vous présentez bien la situation religieuse à l'époque. Je dirais religieuse et philosophique à la fois, avec une religion romaine, avec son culte impérial, donc Auguste, cette religion dont vous dites elle a une réalité administrative et formaliste, et puis les partis religieux juifs, et puis ces courants philosophiques qui existent encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'épicurisme, le stoïcisme, et puis le transcendantalisme, c'est-à-dire Platon, en gros. Tout ça cohabite, mais pose quand même pas mal de problèmes, Ludovic Nobel. C'est-à-dire entre cette religion romaine dont vous dites effectivement qu'elle est, on va dire, très administrative et politique, et les partis religieux juifs, il y a quand même une incompréhension totale.
Oui, bien sûr. Le judaïsme était une religion exclusive, avec un seul Dieu, le Dieu de Yahvé, une foi monothéiste pure, et donc il n'y a pas d'autre Dieu, on ne peut pas rendre culte à quelqu'un d'autre. Et la religion romaine, avec sa foule de dieux, son panthéon de dieux, comme la religion grecque, on en est venu justement à à diviniser l'empereur une fois qu'il était mort et donc à lui donner un culte.
Oui, là, c'était insupportable, effectivement,
pour les Juifs. Oui. Et les Juifs ne pouvaient rendre ce culte à un empereur, ne pouvaient tolérer, disons. Et donc, immanquablement, ça donnait beaucoup de tensions entre ces Romains qui étaient présents en Judée et qui voulaient imposer parfois leur mode de vie, leur manière de voir. Et il y a eu des tentatives, on a essayé de forcer les Juifs à se convertir. Et il y avait donc beaucoup d'éclats. C'était un monde très bigarré, dans le fond, un peu finalement semblable à cette Jérusalem d'aujourd'hui. Quand on y est, eh bien, on a ces chrétiens de différentes confessions, on a ces juifs, et puis nous avons aussi des musulmans. Et donc, il y a un peu quelque chose qui cohabite tant bien que mal ensemble.
Vous vous rappelez, dans Jésus et son monde, Ludwig Nobel, qu'il y avait aussi un souci avec la nudité pour les Juifs, parce que les Romains vouaient un culte au corps et à la nudité, disons-le, et ça gênait beaucoup les religieux juifs.
Bien sûr aussi.
Ça les heurtait, disons.
Ça les heurtait. Donc, notre religion chrétienne a quand même été très, très marquée par le judaïsme aussi. Et donc, la religion romaine, par rapport au corps, un peu dans la suite de la Grèce, était beaucoup plus libérale ou beaucoup plus ouverte. Et donc, il y avait beaucoup de points de friction entre ces deux mondes, dans le fond. C'est pour ça que la Palestine était un endroit très, très chaud et très tendu.
Bernard Lecomte, oui, la Palestine était un territoire où il y avait beaucoup de violence. Comment vous le définiriez? On voit bien dans votre Jérusalem magazine, vous nous présentez notamment le roi Hérode. Alors vous dites à la fois, vous rappelez sa cruauté tout en disant oui, mais c'est aussi un bâtisseur. Donc il y avait cette opposition entre Hérode, les Romains.
Oui, c'est la Palestine, c'est les Romains qui l'appelaient comme ça.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Le pays de Canaan, à l'époque, c'est un pays qui, depuis des siècles, est en perpétuel mouvement, bouleversement. Il y a des conflits, il y a de la violence. C'est un pays totalement ingérable et le peuple juif est totalement ingérable. L'empereur romain, qui lui, à ce moment, termine de boucler toute la Méditerranée. Rome domine tout le pourtour de la Méditerranée. Les derniers à avoir été conquis par Pompée quelques décennies plus tôt, c'est justement la Palestine, entre la Syrie et l'Égypte. Et déjà, les Romains comprennent que ce peuple-là est ingouvernable. Il a ce dieu très curieux. À l'époque, il n'y a que les Juifs qui ont un dieu unique comme ça, protecteur, qui fait une alliance avec son peuple. Et les Romains ont cette intelligence de se dire, il faut faire attention, ces gens-là, ils ne sont pas tout à fait comme les autres. Et par exemple, les Romains ont dispensé les Juifs de service militaire, alors que toutes les autres populations dominées faisaient évidemment le service militaire. Les Romains ont compris très vite que c'était difficile à gouverner et que c'était quand même une sacrée pelote d'épingle idéologique, politique, philosophique, sociale. Et avouons-le, ça n'a pas beaucoup changé, car ce pays de Palestine aujourd'hui, l'État d'Israël et la région, restent extrêmement bouleversés, instables. Il y a de la violence, il y a des différences, il y a de la guerre. C'est un pays pas comme les autres.
Alors il y a aussi l'aspect, vous l'évoquez, Bernard Lecomte, dans Jérusalem Magazine, il y a l'aspect, je dirais, fiscal, parce que la manière, pour Rome, la manière d'asservir et de contrôler, c'est aussi l'impôt.
Oui, l'impôt, évidemment, qui
est refusé, qui est contesté.
Toutes les régions dominées par Rome,
oui.
Mais en Palestine, il y a un impôt supplémentaire qui est un impôt religieux.
Voilà.
Que les autorités religieuses juives imposent. Et ça augmente évidemment d'autant les sommes que le brave paysan ou le commerçant doit payer. Et il y avait souvent à l'époque, en effet, des protestations contre trop d'impôts. Et les manifestations que mon envoyé spécial de l'époque relate, sont parfaitement exactes sur le plan historique.
Ludwig Nobel, vous évoquez vous aussi l'impôt et les monnaies en Palestine, enfin tel que c'était nommé par les Romains.
Oui, les impôts. C'est... Alors, bien sûr que Rome apportait semblant de paix, disons, une stabilité dans ces régions.
La Pax Romana,
puis, bien sûr,
oui.
Et la Pax Romana, introduite par l'empereur Auguste. Et puis, bien sûr, ces régions étaient riches. Ces régions étaient, donc pour eux, c'était une manière de d'enrichir leur empire, d'enrichir Rome et de prospérer, et de, ainsi de suite. Et donc, il y avait différents types d'impôts auxquels, disons, l'homme libre hein, eh bien, était soumis. Et ils étaient assez nombreux, effectivement. C'est pour ça qu'on avait instauré eh bien, ce système de publicains dont on parle dans les évangiles, hein, ces collecteurs d'impôts qui achetaient leurs charges à l'autorité romaine parce que quand ils allaient encaisser l'impôt, ils allaient majorer un peu l'impôt et donc faire leur, gagner leur vie sur ces revenus qu'ils extorquaient en plus à leurs concitoyens, qu'ils étaient très mal vus. Zachée le publicain en est un, par exemple, mais Matthieu était aussi un publicain. Et il y avait un grand nombre d'impôts. Il y avait un nombre d'impôts sur la tête, hein, qu'on appelait la capitation, donc par personne. Il y avait aussi un impôt foncier, comme on connaît maintenant, sur ce que l'on possédait. Et puis, il y avait bien sûr aussi, justement, ces impôts qu'on appelait la dîme, qui était l'impôt dû au temple et aux autorités juives. Donc, les Palestiniens, ou les Juifs de l'époque, pardon, eh bien, étaient doublement imposés, et donc c'était vraiment assez lourd pour eux, à cette époque, de payer tous ces impôts. Et donc, on peut bien comprendre qu'il y avait un ras-le-bol, comme il y a toujours quand il est question d'impôts.
Vous rappelez, Ludovic Nobel, que le ministère en tant que tel de Jésus n'a duré que 3 ans, essentiellement, vous le rappelez, autour du lac de Tibériade. Et ça vous permet aussi de nous plonger un peu dans cette époque et vous rappelez les techniques de pêche à l'époque de Jésus. C'est-à-dire que vous avez aussi voulu, je dirais comme Bernard Lecomte, mais d'une autre manière, nous immerger un peu dans cette société que Jésus a connu et dont nous parle aussi le Nouveau Testament.
Oui, parce que dans les
pêcheurs,
pêche,
c'est important.
Elles sont nombreuses oui. dans les évangiles, hein,
oui.
puisque les premiers appelés étaient des pêcheurs. Mmh. André, Jacques, les fils de Zébédée étaient aussi des pêcheurs que Jésus est venu appeler sur les bords du lac de Galilée. Et donc, il y a plusieurs scènes où ils pêchent, au moment de la rappel, mais aussi après la mort de Jésus et sa résurrection, ils avaient repris leur activité de pêcheurs. Et puis, on trouve, disons, ces quelques épisodes, par exemple, tout d'un coup, on nous dit qu'ils jetèrent l'épervier. Hein, l'épervier, mais qu'est-ce que c'est l'épervier? Bien, c'est un petit filet de taille ronde voilà, qui permettait de pêcher depuis le bateau. On lançait ce filet de taille ronde et puis il allait plonger dans l'eau et puis les poissons allaient se mettre prisonniers dans les mailles de ce filet. Et puis, il y a un autre passage aussi dans les évangiles où on nous dit eh bien, que Pierre eh bien, va s'habiller. Il est dans l'eau en train de pêcher. Puis, quand il voit Jésus, il s'habilla. Et puis, voilà, il se met. Puis, on se dit, mais pourquoi il pêchait nu? Pourquoi il s'habille pour se jeter dans l'eau? Ça semble un peu bizarre. Et quand on étudie ces techniques de pêche, eh bien, il y avait une technique qui s'appelait la pêche à la senne, qui nécessitait d'avoir deux équipes, une équipe depuis le bord, une équipe depuis le lac, depuis l'eau, hein, avec un très long filet qu'on allait placer d'abord à l'aide du bateau, puis ramener. Et comme c'était un filet assez compliqué à manœuvrer, eh bien, le pêcheur, eh bien, souvent ne portait rien, était nu. Et donc, Pierre, eh bien, à ce moment-là, va mettre un habit pour rencontrer le Christ. Enfin, voilà. Tout cela, c'est pour un peu éclairer ce Nouveau Testament par ces noms, ces techniques de pêche qui nous permettent aussi de mieux comprendre, justement, non pas simplement pour savoir comment on pêche à l'époque, mais pour mieux comprendre de quoi il s'agit dans le Nouveau Testament quand on lit ces textes.
Mais tout ça, ça relève de la recherche historique. Ce sont des documents, enfin, c'est des travaux que vous avez consultés.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, la recherche biblique est enrichie par les différentes sciences, hein, par l'archéologie, par l'histoire, et tout cela vient, disons, enrichir notre connaissance, vient la rendre plus précise. Et donc, depuis la découverte de l'archéologie au XIXe siècle, eh bien, les études bibliques ont été, si on veut, vraiment révolutionnées et changées, notamment avec le père Lagrange, hein, qui a fondé l'école biblique de Jérusalem et qui a, disons, introduit dans le cadre de l'Église catholique la méthode historico, histoire critique, c'est-à-dire un regard plus critique sur les textes. Et cette école existe toujours, hein, elle est toujours tenue par les Dominicains à Jérusalem, mais elle continue ce travail d'archéologie, de recherche, d'histoire, travail sur les textes, d'établir les versions des textes, hein, ainsi de suite.
Bernard Lecomte, dans votre Jérusalem Magazine, alors il y a des tas de rubriques, alors vous en avez même inventé qui frôlent, permettez-moi l'anachronisme, parce que les mots croisés n'étaient pas, ça date quand même d'un petit peu avant la Première Guerre mondiale, mais il y a des mots croisés qu'on peut faire, qui sont très, très, très amusants. Et puis, vous revenez sur sur évidemment la nativité et la crèche, et il y a un encadré intitulé, très, très judicieux, polémique, « Interdire les crèches dans le domaine public ». Alors on se dit, mais de quoi nous parle-t-il ? Alors on comprend très bien, mais c'est-à-dire que déjà à l'époque, on avait, je dirais, des mêmes interrogations qu'aujourd'hui, ou des interdictions, c'est-à-dire que tout ça n'est pas nouveau.
Alors, évidemment, faisons la part des choses. Oui. Il n'y avait pas de crèche à l'époque.
Voilà.
C'est-à-dire
c'est pour ça que je parlais d'anachronisme.
Cette histoire, c'est d'imaginer qu'on représente déjà Joseph, Marie, l'enfant Jésus et peut-être les tables autour et les bergers, et que l'Empire romain ne voyait pas ça d'un bon oeil. Et moi, je me suis amusé à transposer la problématique de cet Empire romain qui dit « Non, non, vos histoires religieuses, c'est pas pour tout le monde, c'est chez vous, mais voilà ». C'est évidemment un jeu, c'est à la limite de l'Uchronie.
Oui.
Mais vous savez, Laurent, j'entendais Ludovic Nobel parler des pêcheurs de Tibériade. Bah, moi, si vous voulez, dans Jérusalem Magazine, dans la rubrique tourisme, vous trouverez la recommandation pour un petit restaurant très sympa qui s'appelle
Chez Philippe.
C'est à Bethsaïde. C'est au bord du lac de Génézareth parce que... À l'époque où Jésus est né, il ne s'appelle pas encore le lac de Tibériade,
bien sûr.
N'existe pas. Et donc, dans cette petite auberge, je vous invite à goûter les spécialités de poisson, les carpes rôties et les fritures grillées que fait très très bien le patron.
Vous nous dites aussi, parce qu'il y a effectivement le paradis des gourmets, amateurs de salades et de poissons grillés, le pays de Canaan vous attend.
Voilà.
Et là, on a un reportage avec effectivement de très belles photos qui nous mettent en appétit.
Donc tout ça, évidemment, est fictif, tout ça est un pastiche, mais je me suis énormément inspiré, justement, des travaux de vous citiez Lagrange, Carcopineau, Jean Potin, Jean-Christian Petit-Fils et Ludovic Nobel, bien sûr,
dont
j'ai pompé scandaleusement un certain nombre de passages, parce que je me suis évidemment totalement inspiré de tout ce que les historiens nous ont dit pour faire ce magazine fictif.
On sent que vous vous êtes aussi, et nous aussi d'ailleurs, vous êtes amusés, parce qu'il y a même une rubrique musique donc, qui s'intitule « Bientôt dans les bacs », et on trouve quand même, elle s'appelle Shella, elle vend des bonbons dans le souk de Jérusalem, elle se définit comme une petite fille de Judéen moyen, et l'amour qu'elle chante se réfère à la visite des rois mages, enfin venus d'Orient.
Et elle chante évidemment les rois mages, comme les rois mages en Galilée.
Voilà, absolument. Donc ça c'est un petit clin d'œil, bien évidemment.
C'est un clin d'œil. Si vous voulez, c'est une suite de clins d'œil qui sont... il s'agit de montrer notamment à des adolescents, à des jeunes qui aiment la presse, que ça va amuser, que tout ça avait un fondement historique et que ça aurait pu faire l'objet d'un magazine. Et c'est une autre façon que celle de Ludovic Nobel, mais au fond, notre projet est exactement le même. Jésus et son monde, qui est d'ailleurs, permettez-moi de le dire, très bien écrit, c'est très clair, et tous les livres sur le sujet ne sont pas aussi clairs. Et puis moi, avec mon magazine fictif, on a un petit peu la même démarche, c'est-à-dire de rappeler au fond que la nativité, ça n'est pas seulement un sapin de Noël et une réunion de famille, c'est aussi un des socles de notre civilisation, c'est toute une histoire qui est magnifique et qui vaut la peine d'être rappelé.
Ludovic Nobel, vous rappelez dans votre ouvrage justement que cet itinéraire, vous rappelez ce peuple de pêcheurs et vous montrez que on considérait notamment la maladie comme étant liée au péché. Enfin, il y avait aussi une proximité très très proche de ce qu'on nommerait aujourd'hui la nature,
Oui.
Oui.
Bien sûr, alors la maladie, on voit bien ça. C'était un peu pour aussi expliquer dans nos évangiles. Souvent, hein, on a l'impression que les malades, ils sont un peu comme les évangiles, on les présente comme possédés par un démon, hein, parce que justement la maladie était vraiment vue comme une malédiction. Si on avait un peu dans le judaïsme, hein, une rétribution directe, si on est juste et on est bon, Dieu nous donne de quoi vivre, hein, de l'argent, nous donne la santé. Voilà, ça c'est la rétribution directe. Et puis donc si on est malade, eh bien c'est qu'on est à quelque part puni par Dieu. Hein. Et cette mentalité-là était fortement ancrée. Et finalement, Jésus, eh bien, par son attitude, parce que ces gens étaient mis au banc de la société, ils étaient mis de côté, ceux qui avaient une lèpre, une maladie, ou des années. Et donc Jésus, par son attitude, eh bien, vient changer quelque chose parce que lui... Ces personnes-là, ils ne les considèrent pas comme des pêcheurs, mais ils les considèrent comme des personnes à libérer.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Ludovic Nobel, pour toutes ces précisions. Je renvoie à votre livre « Jésus et son monde » aux éditions du CERF. 200 pages, 16 euros. Merci encore Bernard Lecomte. Tous ces ouvrages sont évidemment référencés sur le site de Radio Notre-Dame. Jérusalem Magazine, c'est encore aux éditions du CERF. 100 pages, 10 euros. Et vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses avec ces deux livres. Et notamment dans Jérusalem Magazine, en vous amusant. Merci encore à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.